passez votre déjeuner en 5 minutes chrono tous les jours devant votre écran. Vous avez du mal à dire non, vous effectuez beaucoup trop de tâches qui vous ennuient, vous attendez sagement que votre boss reconnaisse votre travail bien fait. Mais êtes moins doué pour vous mettre en valeur ou demander une promotion? Eh bien, si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, vous souffrez peut-être du syndrome du ou de la bonne élève au travail. Syndrome qui concernerait en majorité des femmes, et ce, dès l'école primaire. Alors, est-ce irrémédiable? Et surtout, comment sortir de ce syndrome du bon élève? Eh bien, réponse dans cette émission. Du moins, je l'espère, en compagnie de nos trois invités ce matin, qui sont pour commencer Aurélie Penel. Bonjour.
Bonjour Marion.
Toujours diplômée de l'école de management de Grenoble. Alors, vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes coach professionnelle, vous accompagnez en particulier des personnes et aussi des collectifs qui désirent mettre en œuvre une dynamique positive de changement. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Vous avez publié Trop bon ou trop con, qui sortira dans quelques jours, le 1er avril 2021. Trop bon, trop con, point d'interrogation, la gentillesse n'a pas dit son dernier mot, point d'exclamation, chez Erol. En face de vous, Clara Mollet. Bonjour Clara.
Bonjour.
Alors, vous êtes spécialiste des matières premières, avocat de l'égalité du travail. Vous avez créé la série de podcasts Les Règles du jeu l'année dernière, en 2019, pour permettre justement aux femmes de s'approprier un peu les leviers de la réussite professionnelle. Vous êtes diplômée de Sciences Po, de l'ESSEC, et vous avez de votre côté publié Les Règles du jeu aux éditions Duno. Et puis Noémie Lemaine. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Alors, vous êtes vous-même psychologue du travail, vous avez aussi publié des livres, mais pas forcément directement liés, mais un peu quand même sur notre thème,
Libérez-vous des réflexes sexistes au travail, paru chez Duno en 2018.
Voilà. Et on peut toujours trouver.
Qui évidemment. Parle notamment de certains syndromes des femmes que j'appelais les stéréonanas. dont le syndrome de la bonne élève.
Et bien justement, c'est parfait. C'est de notre sujet. Fondatrice d'UpChange, conseil et coaching. C'est bien ça?
C'est cela.
Et bien voilà. Bienvenue à vous trois. Alors effectivement, commençons par les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Moi qui m'ont. Alors pas époustouflée, mais un peu surprise quand même. En France, elles sont 93% à obtenir leur brevet contre 87% des garçons. Elles décrochent 92% décrochent leur bac contre 89% des garçons. Donc la première question, c'est que tout commence à la petite école. Qui veut répondre pour commencer? Clara Mollet?
Et oui, tout commence à la petite école. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans le monde du travail, on a passé quasiment 100% de notre vie à l'école. Donc c'est quelque part le système, le seul qu'on connaît. C'est le système dans lequel on a tout appris. Le rapport à l'autorité, le rapport aux autres, ce que c'est que le bien, le mal, ce que c'est que la progression, ce que c'est que la réussite, une définition uniforme, la même pour tous, de la réussite. Donc quelque part, quand on change de monde,
ouais,
on est pétri de toutes ces valeurs-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, ce qui a fait notre force, c'est-à-dire le fait d'être une bonne élève, c'est quand même plutôt une bonne chose, devient tout à coup un handicap. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un syndrome, c'est que tout à coup, ça devient quelque chose, voilà, qui est en tout cas inapproprié ou incomplet. Donc, quelque part, bien sûr, ça commence dès le départ, mais je crois qu'en fait, le véritable problème, c'est dans le passage au monde du travail. Est-ce que finalement, l'école nous prépare suffisamment à ce qui vient après, ou est-ce qu'elle se considère comme une fin en soi? À mon avis, c'est là le nœud un peu de l'intrigue. En soi, être une bonne élève, ça n'est pas une mauvaise chose, ça devient une mauvaise chose quand ça nous cantonne à une attitude ou à un système de valeurs qui n'est plus suffisant. Quand on change de monde, en fait.
Noémie Lemaine, d'où ça vient, au sens... Est-ce qu'on sait d'où ça vient, le côté stéréo-nana, comme vous dites?
Alors, c'est vrai que...
Nos mamans, c'est quoi?
La psychologie a des réponses et des hypothèses sur le sujet. C'est qu'on n'élève pas encore aujourd'hui les petites filles comme on élève les petits garçons. C'est-à-dire qu'on élève les gens pour les préparer à des rôles. Et ces rôles-là... encore, au niveau de la société, ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. En tout cas, au niveau de nos schémas inconscients.
C'est encore inconscient, c'est ça que vous voulez dire?
C'est encore puissamment, d'accord. C'est encore puissant et c'est encore inconscient. Et ça se manifeste dans nos réflexes de tous les jours. Ouais. Les professeurs interrogent davantage les garçons que les filles. On prépare pas les gens de la même manière. On apprend les filles à être beaucoup plus soumises. On apprend aux filles à mieux travailler. On sanctionne moins les garçons quand ils dépassent les limites, et on sanctionne davantage les filles. On conditionne les filles à la soumission à l'autorité davantage que les garçons. Donc c'est bien, comme vous dites, c'est excellent d'être bonne élève. C'est pour ça que les filles ont des meilleurs résultats que les garçons. Aujourd'hui, elles sont plus diplômées. Des études ont été réalisées dans tous les pays du monde où les conditions scolaires sont identiques. Les filles sont meilleures élèves. Ça veut dire que ce mécanisme-là, il est puissant, il est inconscient, il est répété. C'est très bien d'être bon élève pour réussir, jusqu'aux fonctions du middle management, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que à l'entrée de l'entreprise, il y a le moment où il va falloir prendre le lead, il y a le moment où il va falloir dépasser les limites, en fait.
On ne devient pas la Prada en 2 heures.
On ne devient pas la Prada en 2 heures. C'est bien d'être bon élève pour réussir, c'est même le minimum. Mais il y a un moment où il faut dépasser le cadre, il y a un moment où il faut sortir de la boîte, en fait, pour dépasser les autres.
Alors, Aurélie Penel, vous, c'est trop bon, trop con, donc c'est au masculin neutre, hein, on va pas partir dans l'écriture inclusive ensuite, je vous rassure. Mais c'est pas par hasard, parce que vous êtes sur le terrain, et enfin vous êtes toutes les trois un peu sur le terrain, mais c'est pas par hasard, vous avez mis ça au neutre. Donc ça veut dire que ça concerne aussi les garçons.
C'est pas par hasard, effectivement, ça concerne aussi les garçons, même s'il y a une prédominance de ce syndrome chez la femme, ça concerne aussi les garçons. Cette envie de perfection, cette attente constante de reconnaissance, tout ce qui fait le syndrome du bon élève. Alors c'est vrai que dans l'éducation, on va plus valoriser un petit garçon pour son audace, même pour son côté bagarreur, il y va, mais oh, bravo mon fils, et la petite fille pour le
sagesse.
Sois belle et tais-toi, au lieu de sois toi et t'es belle, hein, finalement. Si on le retourne, c'est quand même plus sympa. Et que effectivement, cette petite graine, elle germe. Pour autant, on le retrouve dans les deux sexes, et à l'âge adulte, on peut travailler là-dessus, parce que la question de savoir d'où ça vient, elle est intéressante, mais comment on fait demain pour s'en libérer un peu tout en restant soi-même, c'en est une autre qui a encore plus de valeur.
Alors, il y a plusieurs étapes que vous proposez. Alors ça, évidemment, ça se recoupe avec le discours des unes et des autres. Vous, évidemment, vous convergez, puisque c'est des choses aussi de bon sens. Ça, il y a un truc qui m'a intriguée juste avant de rentrer dans le détail de comment on fait. Quand on est gentil, ça se voit. Ça veut dire qu'on veut le montrer, qu'on est bien gentilleux ou bien gentil, et que là je m'adresse à vous Clara, parce que je vous en parlais aussi, cette espèce d'apparence de perfection, enfin de la plus parfaite possible, d'être la plus parfaite possible finalement, c'est un peu ça qui prédomine aussi dans l'image qu'on veut renvoyer quand on est par exemple un ou une bonne élève.
Oui, je pense qu'en fait, le propre d'un ou une bonne élève, c'est d'abord de s'en remettre au regard des autres, aux attentes en tout cas des autres. C'est de se tourner d'abord vers l'autre pour savoir que faire, pour savoir quelle valeur on a, pour savoir si on a le droit d'y aller, pour savoir si on a le droit d'être promu, etc., etc. Donc effectivement, à partir du moment où on met l'autre un peu en première ligne de tout, évidemment, on a envie de renvoyer la meilleure image possible. Et c'est vrai que, alors, est-ce que les origines sont sociales, culturelles, scolaires, je ne sais pas, mais c'est vrai que dans le cas des filles, il y a quelque chose avec la perfection, le fait d'être lisse. C'est un peu caricatural, mais il y a quand même un fond de vrai qui est plus valorisé chez les petites filles que chez les petits garçons, ça c'est clair. Et donc je pense qu'effectivement le propre d'une bonne élève, c'est ça, c'est d'abord de mettre le regard de l'autre et de s'en remettre aux autres pour savoir comment faire, comment mener sa barque. Et c'est ça qui devient très délétère une fois qu'on rentre dans le monde du travail, c'est que si on se perd soi-même, bah, c'est là en fait que la crise de sens intervient. Qu'on se perd, on ne sait plus pourquoi on est là, quoi.
Ouais, c'est terrible, ça peut aller très très loin cette affaire. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Aurélie, c'est pas mon fort en ce moment les prénoms, je sais pas ce qui se passe. Justement, côté gentillesse, c'est intéressant ce mot gentillesse, parce que jusqu'à une certaine époque, c'est vrai que c'était même une des règles d'or, et finalement ça peut se retourner contre la gentille ou le gentil.
Tout est question de dose, de où on place le curseur. La gentillesse, pour moi, ça reste une qualité, première, essentielle.
Les gentils sourient toujours béatement, j'adore.
On imagine tellement la scène.
On est sauvés par, ils sont sauvés par leur masque aujourd'hui.
Ah bah, absolument.
Ça se voit dans les yeux, la gentillesse.
Un vrai sourire avec les petites rides au coin des yeux, c'est quand même magnifique. La gentillesse, ça se voit, et ça se voit pas, parce qu'on peut porter un masque sans ce masque-là. Oui. Mais la question, elle est de vouloir montrer qu'on est gentil, qu'on est bon élève. Je veux le montrer parce qu'effectivement, la reconnaissance viendra dans le regard des autres. J'accorde une attention démesurée à l'appréciation par l'autre de mon travail. Et finalement, ça, c'est être trop. On est dans le trop. Il faut réussir à se placer ses propres critères d'évaluation. Et là, on peut demeurer gentil, mais avoir mis le curseur au bon endroit, mon jugement a de l'importance aussi, je ne me nie pas.
Oui, c'est ça, on revient toujours au fait de de s'oublier finalement derrière un espèce de masque. Alors on a tous des masques évidemment différents, peut-être sauf celui qui va à fond, qui s'en fiche complètement des autres, qui fonce dans la mêlée, quoi. Il y a un peu cette image-là, mais c'est rarement des femmes, d'ailleurs.
Oui, oui, d'ailleurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre idée de syndrome de bon élève qui serait aussi délétère chez les garçons que chez les filles, si j'ai bien compris ce que
vous disiez. Mais c'est vrai qu'on en voit de temps à autre, peut-être.
Oui, mais le problème du syndrome de la bonne élève, pourquoi il affecte les filles ? Parce que, comme vous disiez, les filles, on les conditionne à être gentil
et discipliné
et joli, donc ouais. D'être dans le je plais donc je suis, et à ce moment-là non seulement elles se réalisent moins, mais elles vont être beaucoup plus dans la soumission à l'autorité, et elles vont être asservies, et elles vont être dans l'abnégation, l'assujettissement. Ce sont des schémas qui font que je me mets au service des autres, et on voit qu'il y a la sexualisation des rôles qui arrive, et la sexualisation des métiers qui font que je m'immole en quelque sorte au détriment du développement de mes talents et au détriment de mon épanouissement professionnel. Et quand on les coach, c'est ça le job. Moi je fais ce job depuis une trentaine d'années, c'est d'aider ma clientèle à développer ses talents, son épanouissement, quel que soit leur sexe. Et c'est en faisant du coaching que je me suis rendu compte qu'au niveau des filles, au niveau des femmes, il y avait ça, y compris pour des cadres dirigeantes, c'est-à-dire à un moment donné, un écartèlement entre des schémas plus ou moins inconscients qui est « je dois choisir mes priorités », qui vont être de servir les autres, qui vont être de m'occuper de mon mari, d'être la bonne épouse, d'être la bonne mère, d'être la bonne fille, la boniche, en fait, au détriment de mon épanouissement professionnel. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, les hommes cadres dirigeants...
S'y adonnent à 80%.
Eux, ils ont 4 ou 5 enfants sans aucun problème, les cadres dirigeants hommes, alors que les femmes...
C'est les chiffres qui
oui, c'est intéressant. INSEE, vous regardez les chiffres INSEE, vous allez le voir. Alors que les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des femmes qui arrivent à avoir beaucoup d'enfants et une carrière, ce sont celles qui ont les moyens de se faire aider.
Bien sûr.
On a des milieux, on va avoir des milieux des CSP+, où les travaux domestiques sont réservés aux domestiques, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, et les femmes peuvent se réaliser autant que les messieurs.
Les chiffres parlent.
Les chiffres parlent, il suffit d'aller constater les choses. Et que pour les autres, et bien dans ces cas-là, c'est plus compliqué de devoir tout faire, c'est-à-dire et les travaux domestiques, et d'être asservi, d'être dévoué dans l'abnégation à sa famille, beaucoup plus que son conjoint, et en même temps de travailler, de s'épanouir professionnellement et de se réaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate, les chiffres parlent, comme vous dites, que les femmes font deux fois plus de dépression et de burn-out que les hommes. Le syndrome de la bonne élève en arrive là, pas chez les messieurs, parce que le syndrome du bon élève chez les messieurs, c'est quoi ? C'est de réussir professionnellement pour apporter de l'argent à sa famille. Et ils ont un back-office qui est la bonne épouse.
Effectivement, on n'a rien sur rien. Justement, de ce côté-là.
Et c'est un schéma
Clara,
classique. Hein,
Clara Mollet, oui, ça me fait penser à une question, ce que vous venez de dire. Souvent, on se dit, quand on est un peu la bonne élève, je suis déjà bien contente d'avoir un bon travail. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... c'est très, effectivement, ça concerne peut-être plus les femmes, mais là, j'en viens aux méthodes que vous proposez dans les règles du jeu, justement, à commencer par la demande de promotion, la demande d'augmentation, toutes les négociations qui peuvent exister, qui peuvent être à notre portée. Et très souvent, on dit, alors ça, c'est une conversation de salon, mais Dieu sait qu'elle existe, c'est que les femmes n'y arrivent pas. Par rapport aux hommes, on a du mal à... demande, ça fait sourire Noémie.
Derrière son masque.
Vous voyez, rien ne m'échappe. Qu'en pensez-vous ?
Bah, oui, effectivement. En fait, tout le propos d'effectivement des règles du jeu, c'est de dire, une fois qu'on rentre dans le marché du travail, les règles du jeu ont changé. Et pour avancer, ça passe par d'autres choses. Ça ne veut pas dire que le travail en lui-même ne compte plus, évidemment. Ça veut dire simplement que c'est le premier étage de la fusée et que si on s'en tient là, on risque de faire du surplace. Alors effectivement, la promotion de son travail, la valorisation de ce qu'on fait, le fait d'être capable de demander et de sortir de la position attentiste de la bonne élève, parce que c'est ça aussi une bonne élève, c'est quelqu'un qui attend que les choses lui arrivent. Donc la capacité à aller au-devant des opportunités, des négociations, etc., etc. Ça, c'est des choses, effectivement, comme vous le dites, d'une conversation de salon que tout le monde a plus ou moins en tête. Mais c'est vrai qu'à l'heure de le mettre en place, ça devient beaucoup plus difficile. Et en fait, je crois que c'est le fait que ce soit peut-être plus compliqué pour les femmes que pour les hommes, ça vient effectivement de syndrome dont on parle ici de la bonne élève, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu... C'est comme si dans l'esprit de certaines femmes, c'était pas fair play.
c'était pas à la régulière de faire ce genre de choses. C'est comme si c'était un peu vulgaire d'y aller, de sortir, d'aller au-devant. C'est comme si c'était des choses qui étaient tellement pas naturelles qu'on trouvait un petit peu des raisons pour ne pas y aller, pour s'en empêcher, pour se les interdire. Alors qu'en réalité, déjà, il y a une espèce de désacralisation à faire autour de ces mots. C'est des mots qui font très peur. L'autopromotion, la négociation, le réseautage, c'est des mots un peu épouvantails comme ça, que les gens n'aiment pas. Donc en fait, souvent, on a une espèce de réflexe de défiance comme ça qui consiste à dire non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je suis là pour travailler. Je suis pas là pour faire un numéro de claquette, etc. Donc, moi, je me concentre sur ce que je sais faire. Et puis, un jour ou l'autre, naturellement, la récompense viendra. Et en fait, tout le travail, je pense, qu'il y a à faire pour sortir de ce syndrome de la bonne élève, qui n'est pas une fatalité, c'est pas de changer complètement de nature. On a l'impression que parfois,
en même temps, voilà, on a sa personnalité.
Exactement. Moi, par exemple, j'ai toujours été une bonne élève. Je le resterai sans doute toute ma vie. Et pourtant, il y a quand même, on n'est pas destiné à être handicapé toute sa vie professionnellement. Et je pense qu'en fait, la bonne manière pour s'affranchir de tout ça, c'est de changer d'angle, de changer de perspective, de regard qu'on pose sur les choses au travail. Par exemple, désacraliser sa hiérarchie, comprendre qu'en fait, la figure de son chef, c'est pas la figure du commandeur inquestionnable avec qui on peut pas dialoguer quand on est manager. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui sont managers qui nous écoutent. On sait bien qu'on est ravis d'avoir des gens dans notre équipe qui dialoguent avec nous et qui nous font part de ce qu'ils font, de leurs doutes, de leurs envies. Ça nous fait gagner un temps fou, ça nous facilite la vie. Donc changer de regard sur son management, redéfinir un peu la notion de compétence, comprendre que la visibilité, l'autopromotion, la négociation ne sont pas des dons du ciel, sont des compétences qu'on peut développer. D'accord. Donc ça s'apprend même quand on n'est pas forcément à l'aise avec ça naturellement. Donc il y a une espèce de changement d'angle à opérer comme ça qui peut permettre, tout en restant soi-même, de se libérer et de s'approprier progressivement les leviers de la réussite.
Et justement, nous commencions à évoquer justement comment sortir, comment commencer un petit peu à trouver la solution pour sortir de cet état qui peut être en partie un bout de personnalité, mais dont on peut quand même s'échapper, on peut essayer de l'identifier pour commencer peut-être, et puis s'affirmer, avoir peut-être plus confiance en soi et sortir des clichés inconscients ou conscients. N'est-ce pas, Aurélie ? Alors vous, il y a quelque chose que j'aime bien quand vous dites « gentil, révoltez-vous ». Il y a un moment donné, effectivement, il faut que ça sorte.
Hein. Oui, la gentillesse, c'est pas se sacrifier, c'est se respecter pour pouvoir être gentil avec l'autre. Clara disait tout à l'heure que finalement, le bon élève, il a un rapport à la hiérarchie qui est un peu... entre guillemets délétère. Ouais. Il accorde au chef une valeur, enfin au propos même du chef une valeur démesurée, etc. Et c'est tellement vrai. Le truc, c'est que la qualité de la relation à son chef, à l'autre, dépend de la qualité de la relation qu'on a à soi-même. Comment voulez-vous être respecté par votre chef si vous ne vous respectez pas ? Se respecter, ça commence par se connaître et surtout connaître ses besoins et les affirmer. Et finalement, quand on connaît ses besoins, qu'on les affirme, on peut aller à la rencontre l'un de l'autre et c'est trouver des solutions gagnant-gagnant, exposer une situation factuellement pour vraiment aller dans le même sens. Et c'est ça qu'on doit développer quand on a le syndrome de la bonne élève. Comment je deviens plus assertif, comment j'expose mon point de vue, mon besoin et comment je vais à la rencontre d'une solution qui fonctionne pour tout le monde.
Ouais. Vous aviez
oui, c'est-à-dire que vous avez entièrement raison. C'est comment je deviens plus assertive. Moi, j'accompagne des hommes et des femmes depuis une trentaine d'années, puisque je suis psychologue et coach, et je me rends compte que l'assertivité, ce n'est pas vu de la même manière pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que l'assertivité, c'est quasiment un synonyme de la masculinité pour beaucoup de gens. Et pour les femmes... devenir assertive, il y a des freins inconscients qui les empêchent.
On peut dire, c'est pour traduire pour nos auditeurs qui seraient un peu perdus, c'est assurer.
Oui, l'assertivité, c'est la capacité à défendre ses intérêts et à affirmer ses opinions sans domination et sans soumission.
D'accord.
Hein, j'affirme ce que je pense, ce que je suis, sans menacer les autres, en fait. Hein. Cette qualité-là, elle est beaucoup plus perçue comme masculine que pour féminine, et que vous avez entièrement raison. La logique veut qu'il faut y aller, il faut demander pour obtenir. Demandez, vous aurez. Hein. C'est-à-dire que, mais si je considère que c'est masculin de le faire et que je suis une femme, j'ai une sanction, j'ai une menace. C'est de perdre mon identité de femme. Et moi, j'ai accompagné des femmes qui m'ont dit, mais attention, je ne veux pas perdre ma féminité. On ne va pas vous opérer dans un coaching. Vous allez... il n'y a pas de chirurgie. Ouais. Vous allez rester une femme. Et on peut demander, obtenir, monter au filet, sans avoir une moustache et des barbes, une barbe et des gros muscles, et obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire sans perdre sa féminité. Et là, il y a une double contrainte, il y a une injonction paradoxale pour beaucoup de femmes tant qu'elles n'ont pas débugué.
Et du coup, sans être agressive pour autant non plus, Clara Mollet, n'est-ce pas ?
Oui, exactement, sans être agressive évidemment, mais ça c'est valable pour n'importe qui au travail. Mais c'est vrai que le point qui est soulevé là est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, les biais inconscients, les biais de genre, ça a toutes sortes de noms, mais c'est en fait cette espèce de biais qui consiste à considérer positivement une réaction, par exemple affective, venant d'un homme et négativement venant d'une femme. C'est-à-dire un même comportement, une même phrase dite dans le même contexte par un homme ou par une femme sera perçue différemment par les hommes et les femmes d'ailleurs, hein, parce que les biais cognitifs, c'est vraiment véhiculé par tout le monde. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment aussi le nœud de l'intrigue pour se défaire du syndrome de la bonne élève, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que pour les femmes, ça a un coût. C'est-à-dire tout à coup sortir de la posture dans laquelle on a été un petit peu enfermé, ou en tout cas dans laquelle on s'est fondu toute notre vie, et qu'on continue à perpétuer au travail, ça a un coût. C'est qu'en général, les femmes perdent en popularité, perdent en capital sympathie vis-à-vis de leur environnement professionnel. Et ça, c'est un choix qui n'est pas facile à assumer. Tout à coup, décider d'être effectivement assertive ou de défendre, sans être même effectivement dans l'agressivité ou le rapport de force, mais simplement de se remettre soi-même au centre du jeu, dire je suis là pour avancer, mon objectif c'est ça, mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle par exemple, c'est ce que j'ai envie de défendre, et puis monter effectivement au filet, comme vous le dites, ça a un coût pour les femmes, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Et ça, c'est quand même une vraie réalité,
vous en
rendez une vraie compte, différence.
En fait,
voilà. Et je pense que ça, c'est une des explications au fait que beaucoup de femmes ont du mal à sortir de cette fameuse posture de la bonne élève, c'est que ça a un coût pour les femmes.
Mmh. Aurélie Penel, vous êtes d'accord?
Oui, alors je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Ouais. Pour autant, je suis assez mal à l'aise à l'idée d'opposer tout le temps hommes et femmes. Et je pense que la solution, elle est dans une harmonie plus que dans un combat de il faut que la femme se transforme en homme pour réussir. C'est pas ce qu'on dit, hein. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut se dire. Et je pense que ce syndrome, on a parlé aussi d'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais il y a des hommes qui font aussi, qui sont très investis à la maison, ne nions pas, et qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors oui, il y en a plus chez les femmes, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une opposition. Effectivement, une femme qui va exprimer ses émotions va dire, bah voilà, elle est hystérique ou que sais-je. Il y a des clichés, il y a des biais, il y a tout ce qu'on veut. Pour autant, moi j'ai vu en entreprise des hommes qui voulaient toujours avoir l'assentiment du patron, qui voulaient toujours aller dans le sens du patron.
Ça,
on en connaît tous, et ils sont son victimes aussi de ce syndrome du bon élève.
D'ailleurs, les gentils pensent toujours plus aux autres qu'à eux-mêmes d'ailleurs. Vous consacrez un chapitre là-dessus.
Oui, alors c'est quand même des idées reçues qu'on essaie de déconstruire, en disant oui, effectivement, on pense que les gentils pensent toujours plus qu'à eux-mêmes, aux autres pardon, qu'à eux-mêmes, et qu'il y a plein de gens qui se sacrifient tout le temps. Et qu'il y a un moment, être gentil, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire être capable de penser à soi. Parce qu'encore une fois, comment vous voulez aider quelqu'un si vous êtes vous-même en détresse? Comment vous voulez avoir une relation constructive avec quelqu'un si vous êtes vous-même dans une rage folle intérieurement? Donc vraiment, penser à soi d'abord, ou au moins être bienveillant avec soi-même pour pouvoir l'être avec
l'autre. Et puis se connaître un peu plus aussi, peut-être que c'est ça que vous voulez dire à travers ce livre, justement, Eli Penel. D'ailleurs, pour justement battre en brèche, en tout cas, casser un peu ces clichés qu'on a tous en tête, dont celui-là, par exemple, ou même trop bon, trop con, c'est souvent effectivement. C'est un cliché qui a d'ailleurs entré, vous avez appris ça, au début du XXe siècle, dans le langage populaire.
Ouais.
Donc, j'imagine que c'est pas en 1900 qu'on a créé ce terme, mais c'est vrai que c'est assez récent. C'est-à-dire qu'on se posait même pas la question à l'époque de nos anciens, finalement. C'est curieux, c'est vrai, comme s'il y avait des gens piégés, alors qu'avant, c'était même pas une question. C'est très étonnant.
Comme s'il y avait des gens piégés. Et c'est vrai, quand on est trop dans le trop, on se sacrifie soi-même et puis on est perdant. Et c'est très lié au syndrome de la bonne élève, effectivement, de tout donner en attendant que tout revienne naturellement, au mérite, sans réclamer. Et c'est là que le bas blesse.
Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez. Effectivement, vous avez dit, il ne s'agit pas de transformer les femmes en hommes. Et je pense que c'est très important de revenir là-dessus, parce que je pense que c'est une des défenses principales. Pour transformer les hommes en femmes, ou inversement, si on veut le faire, ce sont des opérations médicales, parce qu'on en revient à la physiologie. Parce que ce que les gens pensent, c'est qu'il existe ou qu'il existerait des qualités et des comportements féminins par nature et des qualités et des comportements féminines par nature. En psychologie, il n'a jamais été démontré qu'il existe des qualités de personnalité féminines et des qualités de personnalité masculines. Il existe des comportements et des qualités qu'on doit ajuster en fonction de nos objectifs. Tant qu'on pense qu'il existe des qualités masculines et que du coup, il ne faut pas transformer les femmes en hommes, c'est-à-dire leur faire avoir des comportements ou des qualités ou des traits de personnalité de l'autre sexe, alors on s'enferme. Parce que c'est pas ça le sujet. C'est-à-dire, il n'y a pas des tests de personnalité réservés aux hommes. Tests de... Ça n'existe pas, ça.
D'ailleurs, il y a des postes qui sont occupés par les deux.
Ça n'existe pas. Ouais. Donc non, en coachant, en accompagnant, on ne transforme pas les gens dans l'autre sexe. Ce sont les opérations médicales, ça. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assertivité, c'est-à-dire que la
tout le monde peut y avoir accès, quoi.
Tout le monde peut y avoir accès, c'est pas une question de garçon ou de femme. Et qu'en revanche, pour évoluer, il faut y avoir accès.
Il faut y avoir accès. Et ça, c'est important d'en parler justement aujourd'hui.
C'est-à-dire, il faut développer ça. Il faut avoir une ambition, savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on va faire pour l'avoir.
Clara Mollet, vous proposez, vous, par exemple, pour commencer, pour sortir un peu de ce syndrome, par exemple, les micro-moments. Alors là, je parle de la vie en entreprise. Parce qu'on peut aussi apprendre à nos petits, aux parents des petits qui nous écoutent, peut-être à cibler ça à l'école primaire ou au collège ou au lycée pour ne pas que ça reste engrammé après pour la vie professionnelle. Mais c'est intéressant parce que ça m'a marqué l'histoire des micro-moments dans votre livre dont vous parlez, c'est-à-dire essayer de... tout est important, les réunions, les déjeuners, les pauses café, etc., etc. C'est vrai qu'avec le télétravail, c'est d'autant plus compliqué, mais enfin, c'est une parenthèse. En dehors de cela, expliquez-nous un peu cette théorie des micro-moments.
En fait, c'est un changement d'échelle qui consiste à regarder un parcours professionnel par le quotidien plutôt que par les grands moments. Parce qu'en fait, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'effectivement, une vie professionnelle, c'est fait donc de micro-moments, de tout petits moments qui sont un peu les plus petits dénominateurs communs d'une vie professionnelle que tout le monde vit. Donc effectivement, les coups de fil, répondre à des mails, les conversations informelles dans les couloirs, enfin, il y a les réunions, enfin, il y a toute une série comme ça de tout petits moments. Et en fait, je me suis intéressée à ces moments-là parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là, à cette échelle-là, qu'on a le plus de leviers d'action. Quand on regarde en fait le problème par en haut, par les grandes masses, c'est trop impressionnant. Alors que quand on zoome, quand on regarde vraiment le détail du quotidien, alors là, on s'aperçoit qu'il y a tout un panel d'actions possibles qui sont elles-mêmes des micro-actions d'ailleurs.
Par exemple,
quand on prend par exemple une notion qui fait très peur, rendre son travail visible, promouvoir son travail. Quand on prend ce mot-là et qu'on reste dans le vague, alors tous les fantasmes apparaissent. On se dit, oh là là, promouvoir mon travail, déjà, il faut que je montre un travail parfait, ensuite, il faut que je sois vraiment au top, ensuite, il faut que le moment soit parfait, il faut que la personne en face soit dans les conditions idéales pour recevoir le message que je vais lui donner, il faut qu'en plus, la manière dont je promeuve soit irréprochable et fasse mouche tout de suite, que la personne... Enfin, on s'imagine tout un tas de choses. Alors qu'en fait, l'autopromotion, ça passe, par exemple, par des toutes petites choses qu'on peut faire tous les jours. Exemple, poser des questions en rapport avec ce qu'on fait, à son chef, à son environnement professionnel, pour rester un peu dans leur paysage mental. Partager des informations en lien avec ce sur quoi on travaille, c'est aussi une manière de rappeler aux gens sur ce sur quoi on travaille. Rendre compte de ce qu'on fait régulièrement, rendre compte des difficultés éventuellement qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, promouvoir son travail, c'est simplement une espèce de tout petit travail continu qui consiste à rappeler aux gens, parce qu'en fait, on a aussi tendance à penser que tout le monde autour de nous est autant au courant de ce qu'on fait que nous-mêmes. Mais en fait, c'est pas vrai. Je veux dire, au travail, chacun est concentré sur sa trajectoire et c'est normal. Et quelque part, ça fait partie du travail de s'assurer que, voilà, que les gens autour de nous n'oublient pas ou de le rappeler, en tout cas, là où on en est, etc. Et donc, ça, c'est un exemple. Mais c'est vrai que quand on prend quelque part ces grandes questions de comment je fais pour avancer au travail. Ah, il faut que je promeuve mon travail. Mais ça veut dire quoi en réalité? Et donc ce travail-là de zoomer et de repartir par l'échelle un peu micro, eh bien ça permet de dédiaboliser ces mots-là et ces concepts-là, de se les approprier et de s'apercevoir que tout le monde peut les apprendre.
Peut se les approprier.
Exactement. C'est-à-dire ça n'est pas réservé à certains. Parfois, on a l'impression, oh là là, la promotion, la négociation, mais c'est des qualités un peu intrinsèques. Il y a certaines personnes qui sont naturellement douées, et puis toutes les autres, finalement, resteraient sur le bord de la route. Ouais. C'est pas vrai.
Aurélie Pénal, vous êtes d'accord dans le coup des micro-moments, effectivement, s'investir en détail dans la vie, dans le quotidien de sa vie en entreprise. Tous les moments, j'allais dire, tous les moments sont bons. pour justement se manifester et s'assertiver, comment est-ce qu'on dit, s'assertir, pardon, s'affirmer en tout cas.
Je suis complètement d'accord avec Clara, et le moment quand on devient vraiment à l'aise là-dedans, c'est quand on est capable aussi d'avoir ces critères d'évaluation de son boulot. Et moi, j'imagine très bien quelqu'un, prenons une femme, allez, qui aurait rendu un travail, ça a été laborieux, elle a essayé de rendre le dossier parfait, et elle envoie à son chef son mail en disant « Voilà, j'ai essayé de répondre aux besoins, j'espère que ça te conviendra, n'hésite pas s'il faut que je complète telle partie ou que j'y bosse encore, j'espère que ça t'ira. » Et c'est pas la même démarche quand on est à l'aise, quand on a travaillé les micro-moments et quand on dit « Voilà le dossier que j'ai fait, je suis bien contente parce que là, j'ai vraiment adressé tous les points et je trouve qu'on arrive à quelque chose qui a vraiment de la gueule. » Pardonnez-moi l'expression. Ouais. Et ben, c'est pas la même chose. Et on est...
Peut-être un peu fier.
On est un peu fier. Ça nous fait du bien à nous. On n'a plus besoin de la reconnaissance de l'autre et c'est là que la reconnaissance arrive. J'ai eu, là aussi en coaching, une jeune femme qui à chaque fois pensait qu'elle allait évoluer parce qu'on lui promettait une promotion, etc. Et à chaque fois, elle ne l'avait pas. Et pourtant, elle travaillait. Elle allait chercher des merci. On lui donnait d'ailleurs des merci. Hein. Et puis au moment où elle a dit, en fait, je m'en fiche d'avoir la promotion, ou je lâche prise, je fais le travail parce que je l'aime, parce que je le fais bien, et je suis à l'aise avec ça. Elle n'a plus du tout renvoyé la même image, elle n'a plus la même posture, et c'est là qu'elle a obtenu ce qu'elle attendait. Donc il y a le côté, je me bats pour l'avoir, mais il y a aussi le côté où je ne le fais pas pour quelqu'un, je le fais pour
c'est
moi.
C'est un état d'esprit à un moment donné. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre, peut-être, Noémie.
C'est exactement ça qu'il faut comprendre. Clara, votre démarche, elle est superbe, effectivement. Il faut travailler sur les micro-détails, il faut travailler sur les comportements, sauf que quand on n'a pas l'état d'esprit qu'il faut, comme vous dites Aurélie, quand on n'a pas cet état d'esprit-là, finalement, on s'auto-sabote. Et moi, j'ai vu de nombreuses femmes qui, en évoluant, il y a un moment donné, elles vont dire la phrase qui tue, s'auto-saboter elles-mêmes. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le schéma qui les rattrape. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont toujours, en fait, alignées avec leurs croyances de fond. C'est-à-dire que leurs croyances de fond, c'est quoi? Est-ce que je suis bien à ma place là? Est-ce que je mérite bien le job? Est-ce que je suis légitime à cet endroit-là parce que je suis une femme et que j'ai un rôle où je prends le job dans mon inconscient, réservé à des hommes? Donc là, il peut y avoir un syndrome d'imposture dans le fond qui fait qu'à un moment donné, je me réajuste à mes croyances de fond. Ouais. C'est pour ça que l'état d'esprit dont vous parlez, oui, c'est bien. Travailler son état d'esprit, c'est s'aligner à ses croyances. Quand on a des croyances dans le fond qui ne sont pas d'équerre avec ses ambitions, on est écartelé. Il y a un moment où on va tomber. Donc c'est important de travailler
soit on va devenir complètement agressif, soit on va effectivement sombrer dans la passivité et la dépression, dans le pire des cas.
Il y a un moment, il faut travailler les croyances de fond. C'est-à-dire que là, il faut travailler ses schémas.
Alors, quand on est petit à l'école, c'est très bien jusqu'au bac, ça fait très plaisir aux parents, et même aux enfants, parfois, ou pas forcément, puisqu'ils se complaisent, ils se moulent dans, justement, la projection peut-être des parents, parfois. Mais en tout cas, parfois, après, eh bien, ça se retourne contre eux, puisqu'ils font tout bien pour être bien vus, si j'ai bien compris, mais ils ne s'expriment pas avec, finalement, leur moelle, leur... personnalité propre, leur soi avec un grand S, etc. Et ça peut poser problème. On en parle aujourd'hui avec Noémie Lemen, psychologue du travail, Clara Mollet, qui est coach, enfin non, qui est conférencière, pardon, qui est avocat de l'égalité au travail et qui avait surtout publié Les règles du jeu chez Duno. Aurélie Pénel est également avec nous, et qui a publié de son côté, qui est coach aussi, qui a publié Trop bon, trop con, la gentillesse n'a pas dit son dernier mot chez Erol. Alors, on peut être bon. Alors, peut-être d'abord un retour sur ce qui a été dit, Aurélie, à propos des hommes. J'aimerais bien qu'on y revienne quand même avant de passer à la bonté, puisqu'on a le droit quand même peut-être d'être bon au travail sans être complètement passif et un peu l'idiot du village. Et ou le bouc émissaire, parce que ça peut arriver aussi, évidemment, comme à l'école. On va tout disputer, là. Aurélie. Et puis, je demande aussi aux autres, hein, Clara et Noémie. Au fond, côté homme, on a parlé côté femme, effectivement, on comprend à peu près le schéma qui se joue quand on n'ose pas s'affirmer. Quand on est un homme, donc ça peut être, effectivement, vous le disiez à l'instant, justement, Aurélie Pénel, la surdouance, enfin en tout cas le fait d'être au potentiel, etc., ça peut générer un stress chez certains qui peut rester longtemps. Mais dans, on peut dire dans un nombre de cas plus classique, D'où ça viendrait ce côté, effectivement, pour essayer de comprendre juste côté masculin, est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent, du coup?
Bah, pour moi, les ressorts sont exactement les mêmes.
Ouais.
C'est simplement que c'est dans une mesure un peu moindre, que ça, c'est peut-être le degré d'intensité et puis la répartition dans la population générale qui diffère pour toutes les causes dont on a déjà parlé. Mais pour moi, c'est exactement les mêmes ressorts. C'est le fait, quelque part, de se fixer une pression de perfection, de s'en remettre aux autres pour savoir...
De passion de soi,
d'avoir un rapport aux instructions aussi, à la règle, très très
à l'autorité,
un peu rigide, etc. Et qui sont héritées, voilà, de données culturelles, scolaires. Enfin, ça remonte à la nuit des temps. Hein. C'est des siècles d'histoire, tout ça. Donc, c'est assez compliqué à démêler. Mais c'est vrai que le syndrome, en tout cas, de l'imposteur, c'est un syndrome qui a été théorisé pour
on
la première fois, dans les années 70, par des chercheurs, des chercheuses d'ailleurs américaines, et qui en fait, alors l'étude à l'époque portait sur les femmes. Mais encore une fois, c'est quand même des schémas qui sont valables pour les deux. Et en fait, elle s'intéressait pour le coup à des femmes qui avaient très bien réussi, qui avaient vraiment des parcours professionnels hors normes, et qui toutes attribuaient leur succès à des facteurs extérieurs. Donc en fait, l'origine du syndrome de l'imposteur,
c'est intéressant.
Mais qui rejoint évidemment le syndrome de la bonne élève, c'est ça. Et en fait, elle s'apercevait que plus les personnes étaient compétentes, et plus le syndrome de l'imposteur était fort. Donc il y a une espèce de lien de corrélation comme ça entre le degré de compétence, de responsabilité, etc., et le fait d'attribuer les facteurs de notre réussite à des éléments qui ne dépendent pas de nous, quoi.
Ouais.
Mais ça, effectivement, je pense que les hommes qui sont concernés le sont pour un petit peu les mêmes raisons que les femmes, en réalité.
Ouais, toujours le rapport à l'autorité suprême, au commandeur, comme vous l'avez évoqué les unes les autres. Aurélie ? Oui, pardon.
Et souvent, à la base, un manque d'estime de soi, une espèce de complexe d'infériorité pour X raisons.
Ouais.
Là, les raisons sont nombreuses.
Il faut les travailler, quoi.
Oui, et ça se travaille. Et ce complexe d'infériorité, il se manifeste par un besoin énorme de reconnaissance qui n'est jamais assouvi et qui doit venir des autres.
Mmh. Aurélie, qu'avez-vous à dire sur ce plan-là?
Sur ce plan-là, moi j'ai trois points. Vraiment, le syndrome du bon élève et de l'imposteur, hein, c'est très lié. Pour moi, il y a trois points importants. C'est prêter une attention démesurée aux attentes des autres, avec l'envie de... On lit son avis, on essaie de faire le plus parfait possible, l'autre a plus de valeur que moi. Il y a une forme de soumission. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Donc je ne suis plus dans l'assertivité, effectivement, et je nie mes besoins en pensant que l'autre va les deviner.
Ouais.
Il va bien le voir que je fais tout bien. Et le troisième point, c'est d'être en attente constante de reconnaissance. Et c'est un peu le... Aimez-moi. C'est un peu le... En m'aimant, j'aurai de la valeur.
Alors c'est
ce qu'on voit à l'école. Vous avez dit un truc très intéressant. Vous avez dit, quand notre enfant est bon élève à l'école, nous, parents ou enseignants, on est très contents.
Ouais.
Peut-être trop. Peut-être on le fait déjà trop rentrer dans le cadre. Il est sage, il travaille bien et peut-être qu'il a autre chose à offrir. J'adore cette expression, moi, à trop vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Et ben ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Il y a un moment,
génial.
Être soi, c'est important.
Je garderai ce souvenir.
Voir une quiche.
Une pomme. Enfin bref. Noémie, à vous. À vous de jouer. Vous avez envie de répondre à cette question ou pas?
Bah, oui.
Parce que vous en êtes dans votre patientèle, vous avez quand même des hommes qui...
Oui,
j'ai des
hommes.
Pas bien.
Ça s'appelle les coachings d'assertivité. Bien sûr qu'il y a des hommes qu'il faut aider à prendre mieux leur place au CODIR, par exemple. Et j'en accompagne. Sauf que là, c'est beaucoup plus facile un coaching d'assertivité chez un homme.
Vous avez remarqué ça?
Que chez une femme. Mais oui, parce que je vais dans le sens du courant. C'est-à-dire que toutes les attentes du monde vont les conduire vers une meilleure expression d'eux-mêmes. Alors que pour les femmes...
C'est encore pas le cas.
Pas tant que ça. C'est-à-dire qu'une femme qui s'exprime avec affirmation, on va vite la trouver soit arrogante, soit agressive.
Mm.
Pas un homme. C'est-à-dire que pas un homme. Mm. Il faut vraiment qu'il aille très fort pour qu'on en arrive là.
Ouais.
Donc, les attentes et les visions ne sont pas les mêmes. Ce sont des biais cognitifs, comme vous l'avez fort justement dit, Clara. Effectivement, c'est ça. Mais ça veut dire que la réponse à un moment donné pour les femmes, c'est de faire fi de l'assentiment des autres, alors que pour les hommes, ils peuvent se permettre de l'obtenir. Donc oui, j'ai des coachings d'assertivité.
Faut travailler, quoi.
Oui, j'ai des coachings d'assertivité pour les hommes. Donc là, après, c'est facile. On travaille sur les représentations, sur leurs croyances
et un peu leur histoire, éventuellement.
Sur leur histoire, sur effectivement des comportements. Après, pour faire changer les gens, il y a trois axes, hein. Les pensées, les schémas, les croyances, les comportements. comme vous avez fait Clara, et puis les émotions. Il y a trois entrées. Donc en fonction de la personne que j'ai en face de moi, si j'ai un intello, un cognitif, si j'ai quelqu'un qui est envahi par ses émotions complexes, etc., on va travailler là-dessus. D'accord. Donc en fait, c'est ces trois entrées. Pour chaque entrée, il y a des méthodes différentes. Et on les connaît très bien en psychologie. Ce sont des méthodes généralement qui sont très issues des thérapies brèves.
Absolument, on connaît bien ici. Aurélie, la bonté au travail, j'aimerais bien qu'on s'y arrête. On peut être bon sans être con, finalement. C'est un peu ce qu'on peut...
Ah oui, on peut être bon.
On est d'accord,
sinon
vous n'aurez pas eu ce livre.
On peut, et d'ailleurs, on est meilleur quand on est bon, quand on est gentil au travail. Il y a des études, je pense à l'étude de Google, le projet Aristote, où ils ont regardé, il y a plein de scientifiques qui ont regardé, à essayer de corréler des variables pour voir ce qui rendait performant au travail. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est performante? Donc ils ont regardé, est-ce que c'est la mixité, la culture, l'âge, ils ont regardé plein d'items, et ils ont vu quoi? Ils ont vu que c'était la gentillesse, ou plutôt le socle de confiance qu'on arrive à instaurer dans une équipe. Laisser la place à chacun, que tout le monde puisse s'exprimer sans avoir peur d'être jugé. Et on est pile là-dedans. En fait, quelqu'un qui a une bonne idée, s'il a le syndrome du bon élève, il va pas la dire parce que c'est pas la même que celle du chef. Il faudrait pas aller contre. Et c'est dommage, on perd beaucoup en entreprise si on est dans ce schéma-là. Alors que si on a un socle de confiance où tout le monde peut s'exprimer, où on n'est pas jugé et où on vient enrichir le débat, il n'y a rien de mieux qu'une idée farfelue pour trouver la bonne idée. Hein. Mais si on ne la dit pas, c'est une perte de valeur pour l'entreprise. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais.
Qu'en pensez-vous de ce côté-là? Est-ce qu'on a comment exploiter cette gentillesse dans le bon sens du terme? Parce qu'on a parlé de bon élève, mais là je fais un pont vers la bonté et la gentillesse et la confiance, peut-être peut-on la relier à ça, effectivement.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est exactement lié. Je pense que c'est fondamental. Et en fait, c'est lié au fait d'arriver à être soi-même au travail. Alors, être soi-même
c'est
au travail,
c'est toujours facile à dire, mais
exactement, c'est toujours facile à dire. C'est un peu une expression valise, parce que en réalité, ça sert à rien de vouloir reproduire exactement notre persona dans notre vie privée. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas de sens de vouloir être exactement au travail comme on est avec nos amis, comme on est avec notre famille. Pour moi, c'est normal aussi d'avoir une multiplicité de pas d'identité, mais enfin de comportements. C'est normal, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même environnement. Donc, pour moi, ça sert à rien de vouloir exactement être soi-même. Ça veut pas dire être le même tout le temps, en fait. Mais c'est vrai que le fait d'évoluer dans un environnement professionnel favorable, en fait, à la créativité, c'est-à-dire être en confiance, être gentil quelque part, c'est aussi baisser la garde. C'est aussi être suffisamment à l'aise dans son environnement pour
pas se méfier quoi de tout le temps
et pour être ouvert à l'autre. Ça demande évidemment une confiance énorme. Donc là, les entreprises, en tout cas les milieux professionnels, ont un rôle à jouer parce que, quelque part, ça, c'est quelque chose qu'un individu tout seul ne peut pas créer. Donc ça, c'est une espèce de... Et bon, il y a énormément d'études sur le management en ce moment, des voies qui sont explorées pour essayer d'encourager ça chez les salariés et puis chez les gens en général. Mais c'est vrai que la gentillesse, moi, je trouve que c'est une qualité magnifique qui est souvent sous-estimée, qui, à mon avis, est très puissante. C'est très puissant d'être gentil, en réalité. Ça désarme complètement l'autre, en plus. C'est une manière de...
Au début, on se dit mais il a forcément un intérêt caché derrière la tête, quoi.
Oui, et puis c'est vrai qu'il y a je sais pas pourquoi, c'est intéressant, je trouve, historiquement, de comprendre pourquoi c'est une qualité qui a été autant dévaluée dernièrement. C'est vrai que le trop bon, trop con, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'au travail, je pense que quelque part, le fait de s'autoriser à être gentil, c'est aussi la conséquence, effectivement, d'un environnement favorable qui permet aux gens d'exprimer vraiment toute leur créativité. Parce qu'en fait, le travail, c'est ça. C'est être créatif, c'est être suffisamment à l'aise pour laisser s'exprimer nos idées et que le travail redevienne un lieu d'épanouissement.
Vous l'observez ça auprès de votre patientèle, justement, Noémie, ça, c'est de ce côté, ça, la peur d'être gentil, au fond. Il faut être méchant pour être un vrai reconnu.
C'est vrai qu'il y a ce sentiment-là de difficulté avec la gentillesse. Et j'ai une explication pour cette question pertinente que vous avez posée de comment ça se fait qu'être gentil, c'est associé à un manque de ceci ou en tout cas, ce n'est pas bien vu.
Oui, c'est ça.
Des études ont été réalisées en psychologie sociale. L'équipe, c'est celle de Suzanne Fiske, me semble-t-il. Et en fait, on a repéré que c'est un biais cognitif, que en fait, quand on aperçoit en face des gens nouveaux, on va analyser très vite leurs intentions. C'est-à-dire, est-ce que c'est des amis ou est-ce que c'est des ennemis? C'est le premier filtre. Hein, c'est une question de survie. Hein. Et le fait de percevoir quelqu'un comme gentil va avoir tendance à associer incompétent. Incompétent aussi en méchanceté, incompétent en nuisance. C'est un biais cognitif. Ça veut dire que ça, en termes d'analyse, on l'a automatiquement. Donc quelqu'un qui va afficher un air béat, gentil, ça peut être tout à fait associé à de l'incompétence. C'est pour ça qu'il faut être prudent sur le sujet. Ouais. Parce que nous avons tous des biais cognitifs, nous ne les connaissons pas, ça devient des réflexes de jugement sur les uns et sur les autres, des réflexes d'évaluation, même en recrutement par exemple. On peut donc avoir des effets de cet effet-là, si on ne les connaît pas. Donc on vit dans un monde où les gens ne le savent pas forcément. C'est pour ça qu'afficher d'emblée une gentillesse, moi je recommande d'être prudente et d'être prudent.
Savoir où
ça ne veut pas dire d'afficher une méchanceté, hein, mais on peut simplement afficher plutôt un projet, des objectifs.
Il y a les mots lourds,
du
quoi.
Concret, oui, ouais. Et pas forcément afficher toujours cette attitude.
Ouais. Aurélie, pour finir, pour conclure sur cette idée, c'est intéressant cette nuance qu'apporte peut-être. Il ne faut pas non plus. Se lâcher complètement quoi dans l'entreprise, on est d'accord.
Il y a des codes, enfin en entreprise il y a des codes, il y a des règles, il s'agit pas de
dans un entretien par exemple
le béni de la crèche ou le ravi de la crèche pardon, enfin il s'agit d'être soit en entreprise et pas forcément complètement comme à la maison, d'accord,
ouais.
Mais moi je revendique d'être gentille. Quand je suis en entreprise, je le revendique, ça se passe très bien. Donc quand on a une équipe bienveillante, elle fonctionne mieux, elle a des meilleurs résultats. Et c'est plus un sujet. N'oubliez pas que votre cerveau se surpasse quand il est positif et pas quand il est neutre.
Et bien voilà une belle conclusion. Merci infiniment Aurélie Penel et votre livre Trop bon trop con, la gentillesse n'a pas dit son dernier mot chez Erol, à retrouver dans les librairies dès le 1er avril. Les règles du jeu chez Duno pour Clara Mollet. Merci infiniment à vous. Merci à vous Noémie Lemaine également, psychologue du travail. Libérez-vous des réflexes sexistes au travail chez Duno, à retrouver également. Merci à vous trois.